Le journal présenté par Théo Hetsch.
Bonsoir. Les Britanniques pourraient-ils revoter sur le Brexit? Theresa May ouvre là pour la première fois la porte. Elle a présenté un nouveau projet d'accord et fait des concessions aux travaillistes. Lui propose de revoir complètement le budget de l'Union européenne, supprimer les contributions de chaque État. Jean-Christophe Lagarde, tête de liste UDI, est notre invité à 5 jours des européennes. En Espagne, 5 indépendantistes catalans sont sortis de prison, juste le temps d'aller prêter serment comme parlementaires. La mer monte et, plus qu'on ne le croit, plus de 2 mètres selon une nouvelle étude américaine qui inclut des données inédites sur l'Antarctique. Et puis c'est un fleuron de l'industrie papetière française qui meurt. Le projet de reprise d'Arjowiggins dans la Sarthe tombe à l'eau. Il sera bientôt impossible d'acheter du papier recyclé fabriqué en France. Brexit, acte 4 donc. La Première ministre Theresa May a présenté cet après-midi un nouvel accord de Brexit. Elle espère convaincre les députés qui l'ont déjà rejeté 3 fois. Mais cette fois, l'accord inclut un possible second référendum. Antoine Gignot.
En fait, c'est un marché, un marchandage presque, que Theresa May propose aux députés. Votez pour mon texte, leur dit la Première ministre, et vous aurez la possibilité de vous prononcer à la Chambre des communes pour ou contre un deuxième référendum. Il y aura, dit-elle, à l'intérieur du projet de loi, un paragraphe qui vous autorisera à organiser un vote sur le sujet. La Première ministre appelle surtout l'ensemble des députés à se rassembler derrière elle.
J'ai absolument tout essayé pour trouver une solution. J'ai fait des compromis. Et maintenant, je vous demande de faire vous aussi des compromis. Ce nouvel accord sur le Brexit propose de nouveaux changements pour protéger les emplois, garantir les droits des travailleurs et les standards environnementaux. Avec cet accord, on garde des partenariats étroits dans la sécurité.
Theresa May propose aussi de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière temporaire, uniquement pour les marchandises, et jusqu'à ce que le pays change de gouvernement, sans donner de date précise. Pas sûr que ce soit suffisant. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, l'a répété ces derniers jours. Il y a eu des discussions avec le gouvernement. Elles sont désormais terminées. Elles n'ont pas abouti.
Antoine Gignot à Londres. Theresa May soumettra ce nouveau plan aux communes d'ici 15 jours. Un plan jugé acceptable par le gouvernement irlandais. À quelques jours des européennes, Frontex lance sa première opération hors du territoire de l'UE. L'agence chargée des frontières de l'Union va déployer demain des équipes en Albanie, près de la frontière grecque. Objectif, mieux surveiller la route migratoire des Balkans. On les attendait dans une alliance pro-européenne avec la République en marche. Les centristes de l'UDI ont décidé de se lancer en solo dans ces élections européennes. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde.
Bonsoir.
Tête de liste Les Européens et patron de l'UDI, vous êtes crédité de 1 à 3% dans les sondages. D'abord, que vous inspirent les nouvelles péripéties sur le Brexit?
C'est une éclatante démonstration que ceux qui nous vendent, je pense à Mme Le Pen, à M. Mélenchon, à M. Wauquiez qui veut réécrire une Europe à 5, ceux qui nous vendent la sortie de l'Europe comme une baguette magique qui nous permettrait de nous en sortir, mentent aux Français. Parce qu'on voit la Grande-Bretagne s'enfoncer de crise en crise, d'absence de solution en absence de solution. Ils ont choisi de sortir, ils ne savent pas comment sortir, et ils savent que sortir, ça leur coûte plus cher que de rester. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'ils cherchent désespérément la porte de sortie, mais j'oserais dire, après les déclarations de Mme May, à l'Ouest, rien de nouveau. Parce que la réalité, c'est qu'ils cherchent à imposer à l'Union européenne les conditions de sortie qui leur conviennent, mais il se trouve qu'on ne peut pas faire partie de la famille, c'est-à-dire rester, comme vous l'avez dit, même temporairement dans une union douanière, et puis chercher par ailleurs à ne plus respecter les règles du jeu. L'Europe, elle a des avantages nombreux, plus nombreux que ce qu'on dit en règle générale, et elle a des contraintes qui sont la contrepartie de cet avantage. Et aujourd'hui, les Britanniques, ils souhaitent encore chercher les avantages sans les contreparties. Et ça ne peut pas marcher.
Vous avez fustigé vos adversaires dans cette campagne. Vous aviez annoncé boycotter le débat organisé par France 2 demain. Finalement, vous irez. Pourquoi et quel est le problème avec ce débat et cette campagne?
Le problème avec ce débat, il est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection? Monsieur Wauquiez, Madame Le Pen ou Monsieur Guérini, c'est-à-dire les responsables de La République En Marche, du Front National et des Républicains, quand ils disent que l'Europe c'est important, ils trouvent que c'est tellement important qu'ils ne se présentent pas aux élections. Mais par contre, ils présentent des remplaçants, mais quand il y a un débat, ce n'est pas celles et ceux qui vont siéger au Parlement européen qu'on a le droit de voir, ce sont les remplaçants des remplaçants, c'est-à-dire les chefs de parti qui reviennent devant. On se moque du monde, et d'ailleurs je sens une colère chez les Français qui sont en train de se rendre compte qu'on vole l'élection. C'est-à-dire qu'à la sortie, on nous laisse débattre des gens qui ne sont pas candidats, et qu'en plus on veut nous faire ce croire qu'il y a un référendum pour ou contre Macron, un référendum pour ou contre Le Pen. Et moi, je vous dis une chose, c'est que le 27 mai, c'est-à-dire le lendemain du vote, en Europe, tout le monde se fiche de Macron et de Le Pen. On discutera de l'agriculture, on discutera d'une stratégie industrielle, d'une stratégie de recherche, on discutera d'Europe sociale, mais on discutera jamais de Macron et Le Pen. C'est-à-dire que cette élection est en train de se bâtir sur une imposture. Ce n'est pas une élection franco-française, c'est une élection européenne. Et la question, la seule question qui vaille, c'est est-ce que nous forgeons l'Europe comme une arme pour ne pas subir le reste du monde, pour ne pas subir la mondialisation dérégulée, pour conserver nos indépendances, nos souverainetés et de ce fait renforcer nos nations, ou est-ce que nous acceptons finalement, en ayant une Europe qui ne soit que mercantile, d'être des colonies numériques des États-Unis et de la Chine demain, d'être dépassés et débordés technologiquement, de ne plus rendre ou permettre à notre agriculture d'être souveraine et d'avoir une transition environnementale. Moi, je propose, pour le compte, une Europe qui soit un outil, une arme, un instrument, le seul qui est à notre disposition pour permettre de ne pas subir ni les grandes puissances continentales, ni les grandes puissances économiques. Oui, ça nécessite de transformer l'Europe et pas d'en sortir.
Rapidement, vous proposez dans le même temps une suppression des contributions nationales au budget de l'Union. La France, par exemple, l'an dernier, a versé 23 milliards d'euros. Par quoi vous les remplacez, ces contributions ?
Non, alors la France, elle verse en réalité 13 milliards d'euros pendant 7 ans, ça fait 91 milliards. Mais le but n'est pas seulement de récupérer notre argent. Bien sûr que ça peut permettre de réduire notre dette, bien sûr que ça peut permettre de redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés pauvres qui travaillent au SMIC mais qui ne sont pas à plein temps. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de briser les égoïsmes nationaux qui font que à chaque fois que quelqu'un met 100, il veut retrouver 100. Donc on ne peut pas avoir de politique de recherche commune ambitieuse qui nous évite d'être dépassés sur l'ordinateur quantique, sur l'intelligence artificielle, sur les nanotechnologies, sur les biotechnologies, puisque chacun veut récupérer sa mise au lieu de mettre au pot commun pour qu'on gagne tous ensemble. De la même façon, on ne peut pas avoir de politique industrielle, de politique spatiale, et c'est ça dont l'Europe a besoin, parce que l'Europe est un instrument pour faire mieux ensemble ce qu'on ne sait pas bien faire tout seul. Et donc la suppression des contributions nationales, c'est un moyen de faire en sorte que ce soit pas le contribuable européen qui paye, mais que ce soit les Indiens, les Américains, les Chinois, comme c'était le cas aux origines de l'Europe de Jean Monnet.
Merci Jean-Christophe Lagarde, tête de liste Les Européens et patron de l'UDI. Il a limogé hier son ministre de l'Intérieur, c'est désormais lui qui est en danger. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz devra faire face à une motion de censure lundi au lendemain des élections européennes, motion déposée par les écologistes, à laquelle pourraient se rallier les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite FPE. Ils ont pu sortir de prison quelques heures pour aller prêter serment. 5 élus indépendantistes catalans ont fait un aller-retour de leur cellule au Sénat et à la Chambre des députés à Madrid, où l'accueil de leurs collègues était mouvementé. Marie-Hélène Ballestero.
La bronca a démarré lorsque les députés ont dû prêter serment sur la Constitution espagnole. C'est là que la cacophonie a envahi le Congrès des députés. Chaque fois qu'un député indépendantiste catalan prenait la parole, les autres tapaient du pied, applaudissaient ou huaient en fonction de leur orientation politique. Oriol Junqueras, l'ancien numéro 2 du gouvernement catalan, en détention provisoire, l'a vécu en direct.
Junqueras, Vies, Oriol.
Junqueras a bien prêté serment, même si ses paroles étaient quasiment inaudibles. Fidèle à mon engagement républicain en tant que prisonnier politique et par obligation légale, oui, je promets. Les indépendantistes catalans ont donc profité aujourd'hui de l'occasion pour faire de courts meetings, ce qui a profondément indigné le leader du parti libéral Ciudadanos, Albert Rivera.
On a permis de parler de prisonniers politiques dans une démocratie. L'Espagne est une démocratie. Ici, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a une justice. Madame la Présidente, je vous demande d'agir pour freiner ce type de comportement. Des personnes qui ont attaqué les institutions de l'État sont venues aujourd'hui pour humilier de nouveau les Espagnols. Ils ne vont pas y arriver. Mais cette Chambre, Madame la Présidente, mérite que vous défendiez tous les Espagnols. Je vous demande d'agir.
La 13e législature a démarré aujourd'hui et elle s'annonce houleuse. La Catalogne est toujours omniprésente sur la scène politique espagnole et n'en finit pas de provoquer des tensions. En signe d'apaisement et afin de favoriser le dialogue, le chef du gouvernement espagnol sortant, le socialiste Pedro Sánchez, a proposé 2 élus catalans pour présider les 2 chambres du Parlement. C'est désormais chose faite. Mais malgré ces gestes, la tâche s'annonce ardue.
Marilène Ballestero à Madrid. Elle était présidente de l'Argentine il y a encore 4 ans. Elle est aujourd'hui sur le banc des accusés. Le procès pour corruption de Cristina Kirchner a débuté aujourd'hui à Buenos Aires. L'avocate de 66 ans est suspectée de malversation dans l'attribution de marchés publics en Patagonie. Imaginez une île de déchets plastiques de plusieurs kilomètres entre l'île d'Elbe et la Corse. C'est le constat alarmant de scientifiques italiens et français. Ils signalent la présence de déchets qui dérivent et s'entassent au large de Bastia. C'est le scénario du pire, mais il est jugé plausible. L'Académie américaine des sciences n'exclut pas une montée du niveau des mers de 2,38 m d'ici 2100. C'est 2 fois plus que l'estimation du GIEC, les explications de Solène Cressan.
Ces travaux ne contredisent pas le scénario du GIEC de 2014, mais les recherches avancent surtout sur l'Antarctique. Ils préviennent donc que la hausse peut être plus grave. Si la planète se réchauffe de 5 degrés par rapport à l'ère industrielle, ce qui correspond à la trajectoire actuelle si on ne fait rien, il y a de fortes chances que le niveau des océans monte de 51 cm en moyenne. Mais on ne peut pas exclure non plus qu'il dépasse les 2 mètres, même s'il n'y a que 5% de chances que cela arrive. Et 50 cm, c'est déjà énorme, explique l'une des expertes interrogées dans cette étude, la Française Catherine Ritz, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble.
Ce qu'il faut voir, c'est que c'est 50 cm en moyenne sur la surface de l'océan, mais cette couche d'eau ne va pas se répartir d'une façon homogène. Il y a des endroits où ça va être bien plus. Ça fait des prévisions sur les risques d'inondation qui sont vraiment à prendre en compte.
L'avantage de cette dernière étude, c'est qu'elle montre pour la première fois un consensus des scientifiques à dire l'urgence, une entente sur les ordres de grandeur. Le prochain rapport du GIEC sur le sujet doit lui paraître en septembre prochain. Il intégrera cette fois les évolutions possibles de l'Antarctique, ce qu'il n'avait pas en 2014.
Solène Cressan pour France Culture. Une salariée bretonne de Cora licenciée pour faute grave, sa faute, refuser de travailler le dimanche. Cette caissière de Saint-Malo, 18 ans d'expérience, annonce qu'elle saisit le tribunal des prud'hommes. Un millier de salariés menacés à Belfort chez General Electric. Le marché des turbines à gaz est en recul, explique l'Américain. Mais les syndicats dénoncent une vision à court terme. Plusieurs centaines de salariés étaient dans la rue à Belfort aujourd'hui. Au Royaume-Uni, le deuxième producteur d'acier du pays menacé de faillite, British Steel. Il est bien connu en France, c'est lui qui a repris l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Il réclame au gouvernement britannique un prêt d'urgence de 30 millions de livres. Autre usine en danger et autre feuilleton industriel, la papeterie Arjo-Wiggins dans la Sarthe. Le directeur de la papeterie n'ira pas au bout de son projet de reprise. C'était le dernier espoir auquel s'accrochaient les 600 salariés de l'usine, liquidés le 29 mars dernier. Julie Leduf.
Jean-Christophe Maillon n'ira pas au bout de son projet. Faute de financement privé, il n'est plus possible d'envisager de réactiver rapidement l'usine sartoise, comme l'espérait encore une partie des près de 600 salariés du site de Bessé-sur-Braye. L'ex-directeur avait déjà essayé de boucler un tour de table juste avant la décision du tribunal de commerce de Nanterre en mars dernier, mais sans parvenir dans le délai imparti à réunir les 15 millions de fonds privés nécessaires au déblocage de la même somme en fonds publics. Les chances de voir aboutir le dossier était donc mince, mais c'était aussi ce qui permettait à certains de tenir, selon l'un des représentants CGT de la papeterie, qui se dit un peu assommé par l'annonce. Une nouvelle épreuve alors que beaucoup sont encore sous le choc de la liquidation et seulement au tout début du parcours pour retrouver un travail. Arjo-Wiggins était de très loin le premier employeur dans le secteur de Bessé-sur-Braye.
Julie Leduf de France Bleu Maine. La ministre de la Santé invite les Français à rédiger leurs directives anticipées. Ses dernières volontés en matière de soins médicaux. Agnès Buzyn était interrogée à l'Assemblée sur l'affaire Vincent Lambert, dont les soins ont repris ce matin. Seuls 13% des Français ont déjà rédigé ces directives. Vous pouvez les écrire ou les enregistrer en ligne sur votre dossier médical partagé. Jean-François Ricard sera bien le premier procureur national antiterroriste. Le Conseil supérieur de la magistrature a validé aujourd'hui sa candidature. Actuel conseiller à la Cour de cassation, il va diriger ce parquet chargé des affaires de terrorisme et de crimes contre l'humanité. Il a déjà été en charge de l'enquête sur l'attentat du RER Saint-Michel en juillet 1995. Un quart de siècle après avoir décroché la Palme d'Or à Cannes pour Pulp Fiction, Quentin Tarantino est de retour sur la croisette. Le cinéaste de 56 ans présente ce soir son 9e film Once Upon a Time in Hollywood en compétition officielle. Et puis je vous annonce la mort de l'inventeur du brushing, Patrick Hallès, ancien ancien coiffeur de célébrité, est décédé aujourd'hui à 88 ans. C'est lui qui avait inventé cette technique en 1964. Le temps pour demain, ciel nuageux des Hauts-de-France à la région parisienne, mais du soleil globalement des Pyrénées à l'Alsace. Les minimales entre 5 et 15 degrés le matin, jusqu'à 21 degrés l'après-midi au nord de la Seine, jusqu'à 26 au sud.